Il est 10h à Paris. Voici donc les trésors des musiques africaines.
Manu Dibango sur Africa numéro 1.
Bonjour, 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 bonjour mon cher Robert Tito.
Bonjour Doyen Manu, bonne rentrée à toi, à toutes et à tous, et à notre François qu'on est ravis de retrouver en pleine forme.
Eh oui, on est, il a tout dit, hein, nous on est ravis, alors tous les trois, hein, de vous retrouver pour cette nouvelle saison.
Et quelle saison et surtout quelle rentrée. Alors il s'en est quand même passé des choses cet été. Ça avait démarré fort déjà avec les 60 ans du Doyen Manu, cette carrière célébrée en Abidjan. Puis on était revenu et il y a eu cette fameuse fête du football.
Voilà, mais bon, l'émotion est toujours là. Hein. Je n'ai jamais eu pareille fête dans ma vie. Il a fallu que ce soit le 60e. Comme ça, de toute façon, il ne faut jamais désespérer. Il y a une fête formidable à Abidjan. Et puis, bon, la deuxième fête, c'est ce fameux football où que la France, qu'on ne pensait pas, hein, il fallait y penser, a gagné de quelle manière, avec l'équipe qu'on connaît, avec tout ce qui s'est passé avec. Bref, un été tout en rythme, tout en beauté.
Et tout en chaleur. C'est vrai que la canicule s'est rappelée à notre bon souvenir. La canicule, et puis aussi ce qu'on aime pendant l'été, c'est-à-dire se rencontrer, les concerts. Paris qui avait pris un autre visage aussi. Peut-être que c'était l'effet Coupe du Monde. D'ailleurs, beaucoup en parlent. Ce Paris très piéton, ce Paris où on danse place de la République. Jusqu'à maintenant, à partir de 19h, il y a des rendez-vous dancing.
Oui, et puis alors, disons que toute la France était heureuse, hein, parce que beaucoup d'encombrements dans les routes.
Hein, et oui.
Hein, alors avec ce 80 km en plus, il y avait du rythme.
Et du rythme, il y en aura forcément encore, parce que vous reprenez, c'est vrai, on le dit pour les tout petits, demain, il y a l'excitation des cartables, les magasins sont pleins. Bon, les parents ont plutôt la grise mine de retourner au boulot avec ce que ça entraîne, mais en tout cas, on s'y remet et puis on vous souhaite une bonne rentrée.
Ouais, c'est vrai, j'ai vu mon fils qui partait avec ses trois enfants au magasin. Bon, les enfants tout excités, lui, pensant au portefeuille.
Maya, tu as choisi quoi?
Ah voilà, et puis le tout petit qui lui a, alors c'est bien quand même la rentrée, parce que on entame une saison avec de bonnes résolutions, et puis il y a la découverte, hein. La saison passée, elle est passée déjà. Celle qui arrive avec qu'est-ce qu'elle nous promet et de bonheur, et par exemple là, il y a Mouyengue Nandoutou.
Et oui, le Ndoutou, car au cœur du mois d'août, le 16 août dernier, c'est donc la Queen of Soul qui a tiré sa révérence, Aretha Franklin. Alors vraiment, quel personnage, quel artiste, quelle femme tout simplement.
Voilà, trois semaines avant, il y avait déjà un son de cloche, la famille qui disait « priez pour elle, priez pour elle ». Mais jusqu'au moment fatal, on pense quand même toujours que quelqu'un va s'en sortir. Oh, ça faisait 7 ans quand même que cette maladie-là la travaillait, elle a lutté réellement, donc paix à son âme quelque part. Et puis nous, on va simplement essayer de parcourir son long chemin, musicalement parlant. Mais avant ça, comme d'habitude,
un petit passage par la pub.
Yes.
Sur Africa numéro 1.
Sur la radio africaine, ce dimanche, une histoire. Il était une fois Aretha Louise Franklin, une artiste devenue désormais immortelle.
Un personnage de légende, une énorme artiste, pianiste, chanteuse, et puis femme, tout simplement, qui nous a quittés. Mais alors, les trois dimensions étaient là. Magnifique pianiste, magnifique chanteuse. On pouvait, quand on avait écouté la voix d'Aretha, c'était difficile de changer dans le même genre de musique et d'écouter quelqu'un d'autre. Et puis femme, parce qu'elle a eu une vie très pleine. Hein? Un enfant, le premier enfant à 13 ans, c'est quand même pas courant.
Et oui, surtout que cette histoire démarre dans un endroit. Alors le Tennessee, dont on entend toujours les légendes, c'est Memphis, c'est une ville qui est connue pour avoir abrité pas mal de voix et de très grands personnages de la musique. Elle, elle tombe dedans, pour le dire, de Manu, dans la marmite, quand elle était toute petite.
Dans la marmite, alléluia. Parce que le papa était pasteur, elle n'a pas beaucoup connu sa maman. Le tempérament était partout. Le sud, c'est cette partie des États-Unis, quand tu habites là, il faut avoir de la chance, mais une chance, il faut que le bon Dieu te mette quelques gouttes de chance pour faire quelque chose d'un personnage. Parce que la vie est terrible là-bas, surtout quand tu as le malheur d'avoir notre couleur.
Et c'est vrai que cette couleur, elle la porte fièrement et on le découvrira dans les décennies suivantes. Elle la foi en sa bonne étoile, c'est peu de le dire de Manu, parce que finalement, à la chorale, elle s'affirme de plus en plus, elle avance de plus en plus dans cette chorale, dans l'église d'ailleurs de son papa. Et avec ses deux sœurs, eh bien, elle fait déjà des petites tournées, ce qui va d'ailleurs la faire repérer très vite.
T'as remarqué que souvent, les musiciens, les chanteurs, les chanteuses viennent souvent des églises aux États-Unis. Il y a énormément, que ce soit le jazz, que ce soit le gospel, que ce soit dans le blues, c'est souvent des personnes qui ont chanté dans des chorales, qui étaient donc dans un mélange, et puis petit à petit, selon le destin des uns, des unes et des autres, elle devenait soliste pour quelque chose, et puis elle entraînait autour d'elle... Elle faisait l'unanimité en fait autour d'elle, parce que une chanson, un gospel, quand tu chantes et que tu entends les autres et que tu entends une voix qui émerge et qui émerge tous les dimanches, et il y a unanimité dès qu'elle arrive, dès qu'elle commence à chanter, il y a autour d'elle quelque chose, il y a une magie. Elle procure de la magie dès qu'elle prend le micro, ou bien dès qu'elle commence à chanter. Il y a une magie qui se réveille, et elle avait cette magie.
Et cette magie-là, elle s'exprime dans des titres comme Never Grow Old, Precious Lord, ce sont des classiques religieux. Et c'est là que John Hammond, celui qui a découvert Billie Holiday, va la voir et va avoir un véritable coup de cœur et va lui faire enregistrer un premier opus en 1960, un opus studio. Alors à l'époque, Aretha a tout juste 18 ans, mais elle est déjà mère, le Don Manuel disait, d'un garçon puis d'un autre. C'est-à-dire que elle est déjà femme, ce que beaucoup disent, dans la manière dont elle perçoit la suite de sa vie. Elle ne lâchera plus rien, dit-elle.
Voilà, un peu comme Ella Fitzgerald qui a commencé aussi dans les big bands. Et John Hammond, il avait ce qu'on appelle aux États-Unis un talent scout. Il avait le don de découvrir ou de faire découvrir au monde des talents qui étaient cachés quelque part. Il fréquentait tous les endroits, que ce soit les bars, que ce soit les églises, curieux de nature, et qui a découvert énormément, aussi bien dans le jazz que dans la soul music d'ailleurs, des artistes de grand talent. Et il s'est rarement trompé, ce monsieur. À chaque fois qu'il découvrait quelque chose, ça prenait du temps. Pour Aretha, ça a pris du temps, parce qu'au départ, on l'a pas mis dans la case soul, on l'a mis dans la case jazz. Alors, c'était déjà un public élitiste, un peu restreint. C'était pas le grand public, et c'était pas sa place. Donc, il a fallu quelques années avant que, réellement, ses premiers morceaux commencent à remporter, disons, du succès auprès du public noir d'abord, et puis ensuite, du public, américain tout court, et puis mondial par la suite.
Et c'est vrai que les années dont tu parles, Don Manu chez Columbia, sont des années où les albums se suivent, se ressemblent un peu, et finalement Aretha et John Hammond se rendent compte que finalement rien ne sortira de cette affaire. Aretha Franklin qui souhaite, elle, quitter ce label, et qui va rejoindre Atlantic et Jerry Wexler, qui l'admire déjà depuis quelques années. Atlantic, le fameux label que tu connais bien.
Voilà, donc tous les albums qu'elle a fait donc avant étaient très propres, bien présentés, tout ce que tu veux, bien joué et tout, mais il n'y avait pas la magie. Effectivement, c'est au moment où elle a eu la chance d'aller chez les frères Artigoun, Atlantic, que je l'ai rencontré d'ailleurs par la suite, hein. Mais ça c'est encore une autre histoire, mais et disons que là, elle a fait la bonne rencontre au bon moment, et puis... avec les titres qui se suivaient, hein, parce qu'à partir du moment qu'elle a eu du succès avec le premier, Les autres ont suivi comme si c'était naturel, alors qu'il y avait du travail énorme derrière.
Un énorme travail, et puis vraiment une osmose complète avec ce nouveau label, et des titres qui vont évidemment la faire remarquer, Never Love the Man, Do I Love You, et d'autres succès alors qui vont sortir et qui vont la faire passer, alors d'étoile reconnue certes au niveau d'un certain public, ah ben une étoile tout court, parce que finalement les tubes vont s'enchaîner,
ouais.
Les numéros 1 également, notamment avec les années 67 et 68 qui sont phares, avec ce Respect qui est d'ailleurs une reprise.
Oui, ben le succès, on ne sait jamais d'où ça vient, hein, parce qu'au départ, c'est Otis Redding qui avait écrit cette chanson, mais c'était pour les hommes déjà, que les gars, il faut se respecter et tout. Mais ce morceau est arrivé au moment où on avait besoin, c'est le début de Black is Beautiful, I'm Black and Proud, tu vois, c'est l'émergence de la découverte de soi-même, disons, de africain-américain. Voilà, c'est le départ. C'est l'époque de Afro et tout ça, Angela Davis et toute cette époque-là. Et donc, elle a pris cette... C'est un cover, en fait, au départ. Mais l'histoire a voulu que les femmes aussi avaient besoin de respect. Et elle était représentante réellement du monde féminin de cette époque-là, musicalement parlant. Et ce respect a pris une importance capitale quand même. Hein. C'est devenu un hymne
grâce à elle, tout comme les titres qui suivront avec Natural Woman, des albums incroyables, et puis après des difficultés, parce que la vie passe par là. Ted White, bien connu des mélomanes, qui est aussi son producteur et son mari, c'est un peu des années où Aretha brille sur scène, mais où elle a, on dirait, envie de briser ses chaînes. C'est ce qui ressort d'une interview dont on a beaucoup fait l'écho au niveau des États-Unis. Mais par contre, elle ne lâche rien sur le plan scénique et enchaîne les succès.
Non, c'est justement ce malentendu. Elle brillait des deux côtés. Elle brillait sur scène et puis elle brillait par la souffrance à la maison. Parce que paraît-il qu'elle était battue, un tout petit peu comme Billie Holiday d'ailleurs. Hein. C'est des femmes qui ont eu des vies parallèles, des vies de femmes parallèles par rapport au talent qu'elles dégageaient. Et le monde entier la croyait comme une déesse, mais c'est une déesse qui souffrait à la maison.
Comme Tina aussi, Tina Turner.
Tina avec Turner, Lume Ike. Elle a aussi eu sa part de souffrance. Et tout ça avec un énorme succès. Donc, il y avait au minimum une double vie, quoi. La vie que tout le monde croyait, la princesse, la queen, la reine et tout ça. Et tout le monde s'imaginait que c'était le paradis. Alors, en même temps que quand elle rentrait à la maison, c'était plutôt l'enfer.
Cette première partie de la carrière d'Aretha Franklin, on l'a narrée dans un bloc qu'on a appelé « La naissance de Lady Soul » avant qu'elle devienne Queen, parce que finalement, Lady Soul, c'était ce qui était un peu le nom qui l'accompagnait, parce qu'il y a le look aussi à Aretha Franklin. Quand elle est sur scène, c'est une tenue, c'est une prestance et une affirmation avec des morceaux qui lui valent d'ailleurs le respect de ses pairs au niveau musical et des morceaux avec toujours le coup de la parenthèse de Amanou. Et c'est ce qui m'étonne. Dans tous les succès d'Aretha Franklin, il y a un titre et un sous-titre comme le premier, Rockabye Your Baby, entre parenthèses, with a Dixie Melody.
Oui, voilà, c'était un standard parce que même les Armstrong ont chanté ce titre-là, bon, ça c'est sa version à elle, mais le fait est que il y avait la chanson, il y avait sa voix à elle, sa personnalité, puis il y avait les arrangements. Et les arrangements étaient toujours bien léchés, les arrangements épousaient, disons que c'était un couturier qui habillait terriblement musicalement Aretha Franklin, parce que c'était toujours juste les notes, juste... le paquet d'arrangements qui était autour d'elle cette fois-ci au moment où elle était avec les Artegun complétait élégamment sa voix et le choix des chansons.
Et notamment ce fameux Respect dont on va écouter une version live, parce que dans le catalogue d'Aretha Franklin, il y a, comme pour beaucoup d'artistes de cette époque, des albums live qui valent le détour. C'est pas le live qui est copié-collé sur le studio.
Non, parce que là, elle se libérait. Le studio, c'est une chose, il y a des rigueurs de studio. Et puis, le live, il y a le public. Autant le studio est froid parce que vous avez juste devant vous le micro, il y a pas de il y a personne. Autant quand l'être humain arrive, qu'il y a la foule, qu'il y a le concert, le morceau reprend une tonalité, une magie différente.
Et c'est également le cas avec d'autres titres dont là on va écouter les versions studio dans Chain of Fools ou alors Share Your Love With Me. On a vraiment alors les voix, ces fameux backing vocals. Parce qu'Aretha est portée aussi par un orchestre et puis les voix, évidemment.
Et puis les voix, c'était l'époque un peu comme Ray Charles, qui était d'ailleurs un des premiers à aller chez les frères Artigoni, parce qu'il a fait pas mal de disques chez Artigoni avant de voler de ses propres ailes. Et c'était une usine à tubes à cette époque-là, avec les King Curtis comme chef d'orchestre, comme arrangeur, et Dieu sait ce que King lui-même, saxophonistiquement parlant, il était là et bien là. Alors, quand tu as un chef d'orchestre qui lui-même est déjà connu et qui manipule et l'instrument et les arrangements, ça tombe au bon moment pour toi, et puis ton étoile peut briller davantage. Alors, ils ont fait le tour du monde, d'ailleurs, avec cet orchestre-là, et il y avait une de ses sœurs qui était choriste.
Aretha Franklin, avec la magie et la naissance de cette artiste qui deviendra un mythe, c'est dans la première partie de ce jukebox qu'on va écouter.
Oui, une petite tune, François.
Dans le bastring.
Tennessee, with all the heart that's in ya, weep no more, my lady, sing the song me, hey little Joe, just as though you had me on your knee, million baby kisses.
Sur Africa numéro 1.
Thank you.
Manu Dibango sur Africa numéro 1.
Change.
sur Africa numéro 1.
La radio africaine et la planète se souvient d'Aretha Franklin. Elle a été honorée ce 31 août. Il faut dire qu'il y avait évidemment du beau monde. Aretha Franklin qui est entrée dans la légende déjà de Manou de son vivant avec des morceaux comme celui qu'on va écouter.
You make me feel like
a natural woman. Le coup des titres en deux parties. Alors c'est 67 et là elle devient vraiment la queen of soul. Mais le côté alléluia n'est jamais très loin.
Ben ça jouxte les deux. Tout à l'heure tu le disais, I love her, alléluia, I love her. Ben elle avait les deux dans ses chansons. C'est l'époque d'ailleurs où j'étais avec Nino Ferrer, dont on a fêté le 20e anniversaire il y a pas tellement longtemps.
Ça passe vite.
Là, de la disparition, c'est tellement on dirait que c'était hier. C'est l'époque également où on attendait le prochain Aretha, le prochain Otis, le prochain James Brown. C'était une époque réellement d'or pour ce qui concerne cette musique soul. Il y avait de la créativité partout, c'était formidable quoi. Il fallait avoir juste la chance d'être là à ce moment-là, comme d'ailleurs au moment du jazz, à l'époque où la Nouvelle-Orléans a été remplacée par le bebop. Et là aussi, il y a eu des tubes avec les monks, les Dizzy Gillespie. À chaque fois aux États-Unis, il y a des décennies comme ça où à un moment donné, quelque chose arrive. Deux, trois, quatre, cinq artistes émergent et amènent un son nouveau. Et cette époque-là, des années, fin des années 60, c'était une époque d'or, en fait. C'était le zénith de ces musiques-là.
Et des musiques et des hymnes comme I Say a Little Prayer for You, que tout le monde chantait. C'est encore une version live qu'on va vous offrir. C'est aussi la période de Manou des grands shows télévisés. Et c'est l'occasion d'écouter un titre, Don't Play That Song You Lied, dans le Cliff Richard Show.
Alors,
Cliff Richard.
On l'a oublié. Ça a été un. Il est encore en vie, d'ailleurs. Ça a été, dans ces années-là, c'était l'un des plus grands chanteurs. Je pense que, populairement parlant, d'ailleurs, il était beaucoup plus au zénith à cette époque-là. Il était plus large niveau public que les Rolling Stones, qui avaient un public spécifique. Et lui, il était plutôt airplay, un tout petit peu comme... comment il s'appelle, Sinatra, qui avait également un grand show à la télévision qui invitait les gens, comme Nat King Cole, c'était l'époque des, réellement des grands shows par des artistes connus et reconnus.
Des artistes connus qui prennent les morceaux, revisitent les morceaux les uns les autres. Et là, Aretha Franklin, d'ailleurs, prend un titre, Bridge Over Troubled Water, qui aurait été aussi, ben voilà, immortalisé par Simon & Garfunkel.
Compositeur Paul Simon, d'ailleurs, ce fameux duo qui a duré des décennies. Hein. Les deux, là, ils ont fait des tubes extraordinaires et... c'est un morceau qui se rapproche de l'église, hein. Le bridge, c'est des harmonies quand même, un tout petit peu beaucoup, même beaucoup d'ailleurs, gospel. Et jusqu'à présent, quand tu entends ce morceau-là, on a l'impression que c'est un noir de Harlem qui a créé ça, alors que c'est Paul Simon.
Et puis il y a des titres où on retrouve évidemment celles qui militent, tu le disais, le contexte américain pour les Noirs dans la décennie 60 n'était déjà pas évident. Dans les années 70, avant même que l'on dise « I'm black and I'm proud », il y avait déjà aussi cette manière de s'affirmer « I'm young, gifted and black », je suis jeune, voilà, j'assure.
C'est la même chose, hein, « I'm black and proud », sauf que je suis doué, quoi. Surtout pour la musique, hein, je veux dire... ça passait aussi par les shafts, ça passait aussi par la black exploitation. C'est cette époque riche en découvertes et en redécouvertes et en affirmation du soi comme noir, certes, mais américain quand même.
Et Aretha Franklin le disait mieux que personne, et surtout avec sa voix, et vous allez l'écouter dans cette deuxième partie.
Voilà.
So tired.
Bongo sur Africa numéro 1.
Thank you.
sur Africa numéro 1. Manu Dibango sur Africa numéro 1.
Aretha Franklin, dont la carrière rime avec amour et respect de Manu Dibango. Un respect d'ailleurs qu'elle n'a jamais cessé d'avoir parce qu'elle était toujours très accessible.
Au départ, elle le réclamait et puis elle l'a eu. Et à partir du moment où elle a eu le respect ne l'a plus quitté jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Donc c'est un mariage qui a duré jusqu'à la fin de sa vie. Parce que naturellement, après, elle était respectée, quoi.
Et une fidélité avec le staff qui l'accompagne jusqu'à ceux qui confectionnaient ses vêtements, son coiffeur, qui témoignèrent au moment de sa disparition le 16 août dernier. On a découvert l'Aretha grand-mère, arrière-grand-mère et finalement très humaine qui parfois enlevait ses chaussures pour monter sur scène.
C'est d'ailleurs avec ses chaussures rouges là qu'on la voit sur son lit.
Absolument.
Les jambes croisées et tout ça, et ma foi... Ouais, c'est la vie, hein. Je veux dire, il y a le début et la fin, mais entre les deux, il y a une vie palpitante, une vie bien remplie musicalement, parlant, et avec beaucoup d'amour de part et d'autre, parce que les gens, partout où elle passait, aux États-Unis notamment, elle était aimée du nord au sud.
Aretha Franklin, dont nous vous raconterons la suite de l'épopée juste après une page de réclame.
Mm-hmm.